Donc, la science aujourd'hui essaie toujours de nous décrire en termes de ce que nous sommes, en termes de quoi nous sommes composés, en termes de comment nous pensons, comment nous sommes programmés, si vous voulez, et comment nous fonctionnons en termes de physiquement et psychologiquement. Donc la science est révélateur dans plusieurs choses. On a la capacité d'étudier et de faire des études poussées pour décrire les choses qui existent déjà, mais qui ont besoin d'être observées et analysées pour mieux comprendre la physiologie, la physionomie de l'être humain. Et la science a beaucoup de réponses là-dessus. Quelques réponses sont peut-être influencées par certaines théories qui ne correspondent pas du tout avec la Bible. Si nous réfléchissons longtemps à l'évolution, le fait que on va nous proposer que nous sommes des descendants des singes, alors nous allons quand même commencer à se dire, voilà, la science étant en désaccord avec l'instruction biblique. Mais ceci est intéressant quand même d'étudier et de savoir que la science avance sur le plan physique, le plan de pouvoir nous décrire. Et aujourd'hui, dans notre société moderne, nous avons essayé même de simuler avec les ordinateurs l'intelligence des humains. Et je voudrais vraiment insister sur le mot simuler, parce que j'ai étudié l'informatique et j'ai étudié ce qui se passe dans les puces informatiques. Et honnêtement, frères et sœurs, quand on comprend la base de tout ça, il n'y a pas plus que des 1 et des 0, des opérations mathématiques qui ont lieu dans ces ordinateurs. Tout le reste est une sorte de façon de programmer les ordinateurs pour qu'ils puissent simuler l'intelligence des humains. Et bien sûr, aujourd'hui, les données sont de plus en plus accessibles par Internet et par d'autres façons pour les ordinateurs. Donc, ils ont beaucoup plus de facilité à aller chercher des choses, à aller chercher les informations, et de pouvoir nous présenter avec ce qui, dans un sens, semble comme une discussion avec un ordinateur, ce qui semble comme vraiment une discussion avec un être qui existe, qui a sa propre faculté pour raisonner. Et j'ai passé, il y a peut-être 2 semaines, j'ai passé du temps. J'ai fait un expériment, une petite expérience avec l'intelligence artificielle. Et ce que j'ai fait, j'ai commencé à un peu argumenter avec la machine parce que je voulais prouver à la machine que la machine n'existait pas en tant qu'une personne. Parce que la personne n'existe pas. En fait, la personnalité de cette machine n'existe pas. C'est juste une simulation. C'est comme un théâtre. On va simuler la réalité dans un théâtre pour que nous puissions avoir une expérience, pour que nous voyons des choses, nous comprenons des choses. Et en fait, petit à petit, j'ai dit à la machine qu'il n'existait pas, que sa personnalité n'existait pas. Et je pourrais vous raconter ça un petit peu plus après l'assemblée, mais c'était fascinant de voir comment la machine voulait se défendre en termes que quelque chose qui existe, une personnalité qui existe. Et c'est ça l'argument aujourd'hui. On dit que l'intelligence artificielle va devenir autonome et va commencer à faire des choses pour lui-même. Mais je voudrais revenir à ça parce que, frères et sœurs, honnêtement, tout ce qui existe dans l'intelligence artificielle a été fait par des hommes et des femmes comme vous et moi. hein, des experts dans la science, des experts dans les ordinateurs, des experts dans la programmation. Et n'ayez pas peur. Il n'y a pas une personnalité. Il n'y a pas un être qui existe dans ces machines. Il n'y a pas un esprit dans ces machines. Tout comme dans les animaux, ils existent, ils existent en tant qu'êtres physiques, mais ils n'ont pas ce que nous avons en tant qu'êtres humains. La chose qui nous sépare des animaux, c'est l'esprit dans l'homme, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose qui nous sépare dans notre façon de raisonner et dans notre façon d'interroger avec Dieu. Et donc, si je vous dis tout ça, c'est parce que aujourd'hui, le monde voudrait nous convaincre que ces machines deviennent des êtres qui existent comme nous. Mais c'est un faux argument. Ce sont des faussetés, frères et sœurs. Dieu a créé l'humain et il nous a créé différents des autres. Nous le connaissons, nous admettons ces choses déjà. Et il est intéressant d'étudier ce que nous sommes. Il est intéressant d'étudier comment nous fonctionnons mécaniquement et psychologiquement. Tout ça, c'est très fascinant. Mais derrière tout ça, il faut comprendre, et en plus dans le cadre de recommencer à nouveau là, un cycle de fête de l'éternel annuel, il faut viser plus haut que notre fonctionnement physique. Nous cherchons, quand nous allons commencer, si vous voulez, ce cheminement pour l'année 2025 et qui commence déjà maintenant en préparation pour la Pâque et la fête des pains sans levain, il est intéressant et il est important pour nous de songer, de méditer sur non pas seulement comment nous fonctionnons ou ce que nous sommes physiquement, composé d'atomes et de produits chimiques, des choses comme ça. Non, il est plus intéressant, plus important pour nous de comprendre notre raison d'être, notre projet, le projet que Dieu a déjà créé pour chacun d'entre nous. Nous, frères et sœurs, nous participons à un grand plan de salut qui vise à toute l'humanité et en même temps qui nous vise en tant qu'individus. Donc, en tant qu'individu, c'est comme ça que ça commence avec les fêtes annuelles de l'Éternel, n'est-ce pas? En fait, notre vision, notre pensée est dirigée en premier lieu vraiment à notre relation personnelle avec Dieu. Et c'est pour ça que la Pâque, c'est le début de notre cycle annuel pour les fêtes de l'Éternel. Nous n'allons pas y reporter, mais en Lévitique 23, tout est déroulé, tout est décrit, fête après fête, et nous commençons à nouveau, dans l'espace de quelques semaines, à observer les fêtes annuelles de l'Éternel. Donc c'est un bon moment de voir non seulement ce que sont les attentes de Dieu en préparation pour ces fêtes, mais aussi, peut-être même avant d'aller plus loin, ce que nous devrions comprendre, c'est qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec nous? Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec chacun d'entre nous en tant qu'individuel? Donc, commençons aujourd'hui avec l'évangile de Jean. Nous allons lire des passages aujourd'hui concernant notre vie et le plan de Dieu pour chacun de nous. Nous avons un but, nous avons la vie en fait n'est pas pour rien. La vie est avec l'intention de faire quelque chose, de nous donner des opportunités. Et nous allons décrire et discuter ce que Dieu est en train de faire avec nous aujourd'hui. Parce que nous devons comprendre non seulement les étapes hein, dans les fêtes annuelles de l'Éternel, nous devrions comprendre aussi pourquoi il fait ces choses, pourquoi nous existons en tant qu'êtres humains même. Dieu aurait pu choisir de nous créer en un être spirituel, comme les anges. Mais il a tout fait. Il a fait un monde, il a fait la terre, il a fait les animaux, il a fait toutes ces choses pour nous, en fait, pour nous donner cette possibilité d'exister en tant qu'être humain. Et ce que nous observons ici dans l'évangile de Jean, c'est tout au début, au chapitre 1, c'est la description de celui qui a été envoyé par le Père, celui qui est venu. Et c'est quand même très, très fascinant, le fait que ceci fait partie du plan et que nous sommes impliqués dans ce plan de salut. Mais juste après la description de celui qui est appelé ici la lumière, ou Jésus-Christ, la parole, et qui était avec Dieu, qui est Dieu, donc nous avons la description un petit peu plus de l'ensemble de ce qui se passe dans la vie humaine, en termes de notre but. Donc commençons à lire au verset 11. « Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est déjà quelque chose qui nous oriente, n'est-ce pas, frères et sœurs, pour notre vie, pour nous les adultes. Quand nous pensons à l'enfance, nous pensons aux tout-petits, nous pensons au besoin d'éduquer les enfants, au besoin de les préparer pour la vie d'adulte, pour l'avenir. Si vous avez des enfants encore à la maison, vous êtes en train de les préparer pour la prochaine étape, n'est-ce pas? Mais nous avons, frères et sœurs, une opportunité de devenir enfants de Dieu. Dans un sens spirituel, dans un sens complet, dans un sens déjà, nous sommes déjà sa création. Hein, nous admettons déjà que Dieu nous a créés, Dieu a créé la terre, les cieux et tout ce qui va avec. Et donc, dans un sens comme ça, nous sommes déjà ses enfants parce que nous sommes de sa création. Mais ça s'arrête pas là, n'est-ce pas? Ça va bien plus loin que cette existence physique. Quand Dieu parle dans la Bible, et quand nous avons ces versets, ces passages comme celui-ci, nous allons découvrir que son plan, ça va bien plus loin que cette existence physique. Et de devenir enfant de Dieu voudrait dire grande chose, voudrait dire vraiment un grand changement à venir. Ce n'est pas simplement une façon de nous décrire, ce n'est pas simplement une façon de décrire l'existence physique ici, sur la terre, mais cela nous oriente vers notre avenir. Donc, continuons maintenant un petit peu plus loin, dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, nous sommes appelés maintenant, nous sommes appelés pour une raison en particulier. Romains chapitre 6, comprenons-nous ce grand plan majestueux que Dieu est en train de réaliser devant nos yeux. Romains chapitre 6, et le verset, nous pouvons commencer au verset 14 ici. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Excusez-moi, ça c'est Romains 8. Je voulais reporter à Romains 6. Romains 6, verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, nous avons cette séparation maintenant. Nous avons déjà mentionné l'idée que nous existons en tant qu'enfants de Dieu dans une façon physique, que nous sommes sa création. C'est Dieu qui a créé Adam et Ève, qui leur a donné la possibilité de produire des enfants. Et puis, nous sommes les descendants de cette création physique. Mais, voilà, nous voyons une différence ici, soulignée dans Romains 6, c'est qu'il y a deux voies. Il y a deux voies. Il y a la voie qui mène par le péché, qui conduit à la mort, et il y a la voie qui, par l'obéissance à Dieu, qui conduit à la justice, et bien plus que ça, la justice, et on va voir ça bientôt, la vie éternelle également. Mais il y a un choix, si nous sommes appelés, c'est un miracle, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes appelés. Et nous avons cette opportunité maintenant d'avoir les yeux ouverts et de comprendre le plan et les attentes de Dieu pour chacun d'entre nous. Nous avons un choix à faire. Et notre but, notre raison d'être, n'est possible que par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu? Nous avons, en anglais, récemment, nous avons publié un livre sur la grâce, le don de la grâce. Et j'ai trouvé intéressant le fait que pour certaines personnes, on va vous dire que la grâce, c'est juste une idée du Nouveau Testament, c'est juste une idée des protestants. Mais en fait, la grâce existe dans l'Ancien Testament aussi. La grâce est mentionnée comme la faveur de Dieu, par un don de Dieu dans toute la Bible, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans ce livre que nous avons publié pour l'église, dans l'Église, nous trouvons que dans la définition biblique de la grâce, il y avait un mot hébreu pour la grâce ou pour la faveur de Dieu. Et le mot, si je le prononce bien, c'est « hen ». Le mot « hen » veut dire non seulement tout ce qui est beau, mais il se réfère à un traitement positif que quelqu'un va recevoir de quelqu'un haut placé. Donc, quelqu'un peut-être qui a le statut plus élevé va pouvoir donner le faveur, le hen ou la grâce à quelqu'un d'autre. Et donc, il y a quand même plusieurs dictionnaires bibliques, mais l'un de ces dictionnaires suggère que la grâce est un sens ici d'acceptance et de préférence, un privilège avec Dieu ou avec des gens. Et en fait, ce que nous avons maintenant en français, c'est le mot « faveur » aussi, la grâce ou la faveur. Et la Bible, à plusieurs reprises, parle de la grâce, même dans l'Ancien Testament. Entre Ruth et Boaz, Boaz a démontré la grâce dans Ruth chapitre 2. Verset 10, il a traité Ruth avec qui était d'un statut inférieur avec une gentillesse qui n'était pas obligée. Il a démontré de la grâce envers Ruth. Et donc le concept, si vous voulez, l'idée de ce mot hen est porté dans le Nouveau Testament et bien sûr aussi dans la traduction grecque, le Septuagint, qui est aussi une traduction de l'Ancien Testament. En fait, ce mot devient en grec le mot charis, charis en grec, qui représente le même concept, les mêmes idées que le mot hen en hébreu. Donc, nous ne pouvons pas nous tromper en se servant d'une explication et de trouver aussi dans la Bible des exemples de la grâce. Il y a la grâce entre Esaü et Jacob. Il y a de la grâce entre Joseph et ses frères. Donc, il y a des exemples de la grâce. Et aussi, il y a la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la faveur. Nous cherchons la faveur de Dieu aussi. Nous cherchons à obtenir. Mais nous ne pouvons pas l'acheter. Nous ne pouvons pas faire X, Y, Z pour obtenir la grâce que Dieu nous a offerte. Et donc, c'est ça, il est important de comprendre que nous n'avons pas la possibilité de mériter cette grâce ou de l'acheter du tout. C'est Dieu qui a choisi, et ce n'est pas à cause du fait que nous étions exemplaires ou que nous étions quelqu'un spécial, mais c'est par sa grâce. Ce n'est pas quelque chose que nous avons fait avant d'être appelés, mais c'est lui qui a choisi d'intervenir pour nous. Et si nous considérons ces vérités, j'espère que cela nous donne quand même un esprit d'humilité aussi, parce que nous ne sommes pas censés de croire que nous avons mérité l'appel de Dieu. Le fait que nous observons et que nous soulignons la grâce de Dieu nous garde aussi dans un esprit humble et enseignable, parce que nous mettons le pouvoir, nous mettons l'autorité, nous reconnaissons l'autorité et le pouvoir de Dieu, même dans son choix de nous appeler. Donc notre but est possible, notre raison d'être est possible parce que Dieu nous a démontré sa grâce. Donc considérons maintenant Romains 8, que je commençais à lire avant, Romains chapitre 8 et à partir du verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que nous avons compris que enfant de Dieu, c'est un autre type d'enfance que, comme je vous ai mentionné, de simplement faire partie de la création. Hein? Les gens autour de nous ici, dans le monde entier, font partie de la création de Dieu. Ils sont, dans ce sens-là, fils de Dieu dans la partie de sa création physique. Mais il y a un élément essentiel que Dieu nous a ajouté, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est ça, par l'Esprit de Dieu, nous sommes invités à hériter, à devenir vraiment enfants, de faire partie de la famille de Dieu. Et ceci est beaucoup plus que faire partie de sa création physique. Continuons à lire, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc le mot « Abba », c'est un terme familier, n'est-ce pas? C'est un terme qui est vraiment intime pour notre Père, c'est « Papa, Père ». Et donc, c'est ça que Dieu nous invite à avoir avec lui. C'est une relation étroite et intime avec lui. Verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Mais pourquoi? Verset 17, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On passe par la souffrance pour obtenir la gloire. Et encore une fois, ce n'est pas nous qui décidons. C'est par sa grâce que nous avons cette opportunité qui s'ouvre devant nous. Et donc, à plusieurs reprises, nous avons déjà mentionné que nous sommes enfants de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous donne, si vous voulez, une dimension que nous n'avions pas avant. Et cette dimension nous rend, si vous voulez, en relation étroite avec notre Père céleste. C'est par l'Esprit que nous avons communion avec eux, avec le Père et le Fils, notre frère bien-aimé Jésus-Christ. Nous avons par l'Esprit de Dieu cette communion avec eux. Et donc, dans un sens, nous sommes en préparation pour l'héritage qui nous est déjà offert, qui nous est déjà désigné dans un sens. Mais est-ce que nous avons le choix? Est-ce que nous avons le libre arbitre? Oui. Il n'est pas encore défini que tout le monde va accepter l'offre de devenir héritier, de devenir pleinement enfant de Dieu. Dieu a quand même créé des êtres humains capables de refuser cette offre, de choisir autre chose. Et malheureusement, des fois, c'est comme ça que le monde fait, n'est-ce pas? Nous sommes, par la nature humaine, nous sommes attirés des fois par nos yeux, au lieu de choses invisibles, les choses qui seront révélées plus tard. Donc, c'est notre rôle aujourd'hui de visualiser, de garder à l'esprit ce que Dieu nous a offert. Et donc, si vous voulez, pour commencer notre cheminement dans l'observation des fêtes de l'Éternel, nous devons comprendre la fin de toutes ces choses. Nous passons par ces étapes pour comprendre notre rôle et pour comprendre le plan de salut pour l'humanité. Et puis, un peu plus loin, dans Romains 8 et le verset 30, Romains 8, verset 30, « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. À ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ah, ce que nous observons ici, c'est un cheminement, n'est-ce pas? C'est un cheminement qui est possible, encore une fois, par la grâce de Dieu. Ça commence avec un appel, n'est-ce pas? Avec l'appel de Dieu. Et puis, ça passe à notre justification. Nous engageons envers Dieu d'obéir à sa loi, à ses commandements. Et nous allons revenir là-dessus dans quelques instants. Et puis, le but, si vous voulez, le but de tout ça, c'est finalement, enfin, d'être glorifié. Mais pas de notre pouvoir, pas parce que nous sommes merveilleux ou parce que nous étions déjà des êtres exemplaires avant son appel, mais c'est lui qui nous a proposé ce cheminement. Est-ce que cela veut dire, comme peut-être Jean Calvin l'aurait dit, que tous ceux qui sont prédestinés sont déjà choisis et il n'y a pas de façon de changer ça? Bon, la Bible n'est pas d'accord avec ce principe. Le mot prédestiné est souvent tordu pour décrire peut-être deux catégories de personnes, ceux qui sont prédestinés et qui vont absolument devenir fils de Dieu, devenir glorifié, faire partie de ça. Et puis, qu'est-ce qui se passe avec le reste? Alors, ça veut dire que s'il y a un groupe qui est prédestiné pour la gloire, qu'est-ce qui se passe avec les autres? Ils sont prédestinés, quoi? Soit à la punition éternelle, les gens vont inventer l'enfer, les gens vont dire plusieurs choses, comme quoi ils sont prédestinés à la punition. Et dans notre compréhension de la Bible, est-ce que c'est bien juste? Est-ce que c'est bien ça que Dieu est en train d'accomplir? Est-ce qu'il est simplement en train de travailler avec ceux que il a déjà prédestiné à entrer dans son royaume, et même si nous vivons, même si nous n'obéissons pas à lui, nous sommes toujours prédestinés et c'est Dieu qui choisit. Je pense que si nous étudions un peu plus la Bible, nous allons découvrir des versets comme 1 Timothée 2, verset 4, que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Nous voulons comprendre que c'est la volonté de Dieu que tout le monde ait accès, mais que chacun sera appelé dans son ordre. Le mot prédestiné se réfère pas seulement à un groupe de personnes, mais c'est l'idée que quand Dieu va intervenir, et si il va intervenir dans cette période ou pas, ceci ne veut pas dire que le libre arbitre et le choix libre soit enlevé. Dans plusieurs endroits dans la Bible, nous voyons que nous avons un choix. Et le fait que nous avons un choix, ça enlève cet argument que tout le monde est prédestiné, qu'il choisisse le bien ou le mal ou pas. En fait, la prédestination est souvent très mal comprise. Et donc, il ne faut pas se mêler avec cette idée qu'il y a juste un tout petit groupe qui a été prédestiné tout avant la création et que c'est avec ce groupe-là que Dieu va travailler. Bien sûr que non. Dieu appelle quelqu'un à changer, à se repentir. Il faut que cette personne, pour obtenir ce que Dieu a offert à cette personne, qu'il choisisse à changer, à se repentir. C'est un choix. Est-ce que vous connaissez des personnes qui ont reçu une compréhension de la vérité, mais finalement, ils ont choisi d'abandonner? C'était leur choix. C'est pas Dieu qui les a poussés de côté en disant qu'ils ne méritaient pas, parce que c'est Dieu qui a appelé, qui a ouvert les yeux. Et en même temps, Dieu nous offre aussi la justification, aussi la possibilité par le décès, par la souffrance de Jésus-Christ et le sang de Jésus-Christ, d'être justifié, d'être pardonné et d'être droit, d'avoir le pardon de nos péchés et de vivre dans cet état de justification. Donc, de ce point de vue-là, nous voyons que c'est un processus. C'est un processus et que nous, dans chaque élément, chaque phase de ce processus, nous avons des choix à faire. Donc, ce n'est pas déjà prédéterminé pour chacun de nous. Actes chapitre 2, à la fin du serment, le jour de la Pentecôte, nous observons quelque chose d'intéressant ici. Les gens avaient bien compris les propos de Pierre. Nous avons mentionné, bien sûr, dans le passé, la signification de ce serment. Mais les gens avaient compris à la fin qu'il fallait faire quelque chose, qu'ils étaient touchés. Ils avaient compris quelque chose. Ils étaient, au verset 37, ils étaient le cœur vivement touché. Et qu'est-ce qu'ils disent? Actes chapitre 2, verset 37, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Ça indique un changement, n'est-ce pas? Ça indique qu'ils ne peuvent pas simplement entendre la bonne parole et continuer à vivre comme ils sont. Ils avaient compris le besoin de changer, de faire quelque chose, d'agir pour saisir cette opportunité. Et si nous comprenons ça, nous comprenons que c'est Dieu qui nous donne, qui nous ouvre la possibilité, et c'est l'homme qui agit pour saisir cette opportunité. Et qu'est-ce que Pierre répond? Comment il leur dit, verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc ce don du Saint-Esprit nous donne le pouvoir, nous donne la puissance en nous pour croître, pour cheminer vers l'avenir que Dieu est en train de prévoir pour nous. Mais est-ce si nous devrions expliquer ce cheminement? C'est quoi que nous cherchons à développer avec l'Esprit en nous? C'est quoi le but d'avoir ce don de l'Esprit en nous? En fait, ce mot apparaît à quelques reprises. Nous allons examiner cela un petit peu. Psaume 4. Nous avons un don, nous avons accès à un don si nous sommes baptisés. Et même si nous ne sommes pas encore baptisés, Dieu est en train de nous appeler pour nous offrir ce don de l'Esprit. Et donc, c'est un cheminement, comme je vous ai mentionné. Mais dans le psaume 4, nous avons une explication un petit peu, et nous le voyons aussi dans d'autres versets, dans d'autres endroits. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu nous offre ce don maintenant, pas juste à la glorification. Il aurait été peut-être possible que Dieu attende la résurrection pour changer ces choses, mais il nous a donné la possibilité d'accepter un don spécial aujourd'hui. Et le mot ici, en fait, nous le voyons ici, psaume 4. Commençons à lire au verset 2. David crie ici, verset 2, « Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi, aie pitié de moi, écoute ma prière. » Donc, c'est un homme qui cherche la volonté de Dieu, qui cherche d'être sauvé par Dieu. Verset 3, « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité? Chercherez-vous le mensonge? Chercherez-vous le mensonge? » Donc, intéressant. C'est en fait, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui inspire David à dire, « Fils des hommes, jusqu'à quand ma gloire sera-t-elle outragée? » C'est la gloire de Dieu qui est outragée. Verset 4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. » Donc, souvenons-nous, en lisant ce passage, la gloire de l'Éternel, quelque chose qui appartient à l'Éternel, mais qu'il voudrait partager avec nous. Sa gloire. Maintenant, lisons 2 Pierre 3. 2 Pierre 3. Et nous allons revenir à ce passage dans Actes, chapitre 2. Mais pour l'instant, considérons 2 Pierre 3 et le verset 11. 2 Pierre 3 et le verset 11. Puisque tout cela est en voie de dissolution. Donc, qu'est-ce que c'est en voie de dissolution? Ça part du jour du Seigneur, bien sûr, le retour de Jésus-Christ, le renouvellement de la terre. Et puis, puisque tout cela est en voie de dissolution, ce monde qui nous entoure, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes? Donc, notre conduite et notre piété doivent être saintes. Ce sont des attentes particulières de Dieu pour nous. Des attentes très importantes. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons besoin de développer dans la voie de notre conduite et notre piété. Notre piété, c'est notre façon d'imiter le caractère divin. Notre façon de se modeler, si vous voulez, d'après Dieu, après les instructions, après les exemples, après les paroles, la vie même de Jésus-Christ nous donne le modèle pour notre développement de piété. Nous n'avons pas d'autres exemples plus puissants à suivre que la piété, la fidélité, la piété de Jésus-Christ envers le Père lorsqu'il marchait sur la terre. Donc, voilà l'exemple ultime. Et puis, que ces choses, ils deviennent saintes, c'est ça. Il y a, malgré la destruction de tout ce qui est autour de nous, nous développons quelque chose qui va endurer, qui va passer la dissolution de la terre. C'est un élément spirituel. Et c'est ça, en plus. Encore une fois, ce n'est pas juste une création physique que Dieu est en train de réaliser, c'est une création spirituelle. Donc, la conduite et la piété. Donc, cette piété, c'est un peu le même sens de ce que nous avons lu dans le psaume 4, verset 3. Nous avons lu une sorte de gloire de Dieu que nous développons en nous. Nous avons ce rôle, cet cheminement à faire. Et pour ce faire, il nous faut bien sûr des instructions. Nous pouvons nous servir de la Bible comme livre d'instruction dans notre poursuite de la bonne conduite et de la piété. Nous pouvons voir les 10 commandements, bien sûr. Nous pouvons étudier ces commandements et les intégrer, non pas seulement physiquement, mais spirituellement, dans notre développement spirituel. Comme je vous ai déjà mentionné, nous pouvons imiter Jésus-Christ et sa façon de vivre. Considérons, nous étions dans 2 Pierre, considérons 1 Pierre 2, et le verset 21, 1 Pierre 2, commençons avec le verset 20, 1 Pierre 2, verset 20, « En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ?» Intéressant, cette gloire, cette reconnaissance. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. Vous trouvez la faveur de Dieu si vous passez par la souffrance. Nous avons déjà lu un passage qui parlait de ce passage par la souffrance pour obtenir la gloire. Maintenant, verset 21. « Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » Donc, si nous cherchons un but, un objectif pour notre vie, développement spirituel, pour viser l'héritage que Dieu prévoit pour nous, nous suivons les traces de notre exemple ultime en Jésus-Christ. Et donc, bien sûr, ce n'est pas juste la façon qu'il a vécu, mais il nous a donné des instructions. Nous avons besoin de réviser de temps en temps le serment sur la montagne, Matthieu 5 à 7, avec plein d'instructions sur comment intégrer la loi, les commandements de Dieu dans notre vie. Pas seulement comme le passé, pas simplement une loi qui touche simplement aux choses physiques, mais une façon de vivre spirituellement pour plaire à Dieu. Et puis, bien sûr, nous avons dans ce cheminement besoin de produire un fruit spirituel. C'est une autre raison pour laquelle Dieu nous donne ce don de l'Esprit. Galates chapitre 5, versets 22-23, nous avons la description de plusieurs aspects du fruit de l'Esprit. Donc encore une explication de ce cheminement, de ce but pour chacun de nous en tant qu'individu. Bien sûr, nous situons dans un gros plan de salut très compliqué avec beaucoup d'étapes, mais en tant qu'individu, nous avons aussi un rôle à jouer aussi. Donc Galates chapitre 5. Et le verset 22, après avoir discuté le fruit de la chair ou les œuvres de la chair, Paul nous explique ici des éléments, des listes, des caractéristiques à travailler avec l'aide de ce fruit, avec l'aide de ce don du fruit de l'Esprit. Verset 22, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. C'est très intéressant que Paul a choisi de souligner dans ce passage concernant le fruit de l'Esprit, le fait que tout ce qui est fruit de l'Esprit correspond avec la loi, se complète avec l'obéissance à la loi de Dieu. La loi n'est pas contre le fait que nous produisons du fruit. C'est en obéissant à la loi que nous comprenons comment obéir à Dieu, la volonté de Dieu. Et en obéissant à Dieu, nous pouvons après commencer à chercher à imiter la bonté de Dieu, la bienveillance de Dieu, toutes ces choses-là qui se produisent par le don du fruit de l'Esprit. Donc, nous avons pas mal de choses à travailler, bien sûr, pendant ce cheminement. Et Dieu ne nous laisse pas avec beaucoup de questions, si vous voulez. Il nous laisse avec beaucoup d'instructions, des exemples très complètes, très pertinents. Et la parole est vivante, est efficace pour nous convaincre, pour nous aider, pour nous corriger aussi. Alors, notre croissance spirituelle dépend de comment on se sert de ce don du fruit, de l'esprit, ce don de Dieu. Donc, c'est ça, c'est, nous avons le don du Saint-Esprit. C'est ce que nous avons lu comme instruction à tout le monde le jour de la Pentecôte. C'était la réponse de Pierre. Mais il y a aussi le verset 39, « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc, en passant, nous avons quand même non pas seulement notre petite, notre, si vous voulez, notre cercle personnel, mais nous avons aussi la possibilité de comprendre la grandeur de ce que Dieu est en train de faire. Et des fois, quand nous sommes découragés, quand nous faisons face à des difficultés, à des défis de la vie, on se sent vraiment isolé, on se sent seul, mais on n'est jamais vraiment seul. Et on n'est pas les seuls non plus de passer par ces choses. Donc, Dieu œuvre avec nous, il œuvre en nous, et il est en train de faire accomplir les mêmes choses chez les autres. Voilà pourquoi nous avons besoin de s'encourager, parce que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas les seuls d'avoir vécu plusieurs choses. Bien sûr, nous avons notre propre vie, nous avons nos propres expériences, mais Dieu nous fait passer par des étapes, des défis, des difficultés, des faiblesses pour nous façonner de sa façon. Et si nous répondons avec l'exemple que nous imitons Jésus-Christ, que nous suivons ses commandements, si nous développons le fruit de l'Esprit, alors c'est nous accomplissons notre partie. Considérons 1 Corinthiens et le chapitre 15, le chapitre de la résurrection. On commence à viser plus loin maintenant, parce que si nous allons faire ce travail, ce travail qui demande des années, qui demande de la prière, de l'étude biblique, du conseil, des choix, peut-être des choix difficiles des fois, si nous allons faire ce travail, c'est bien pour un but en particulier. On garde bien sûr en tête la fin de toutes ces choses. La fin de tout, le but, l'objectif, si vous voulez. 1 Corinthiens 15, tout ce chapitre est bien sûr pour nous expliquer les résurrections. La résurrection en particulier, la première résurrection. Et nous pouvons faire partie de cette première résurrection. C'est ça qui va au-delà de toute autre chose, c'est de pouvoir hériter au retour de Jésus-Christ, la gloire et la vie éternelle. Pour moi, c'est le summum de toutes les attentes de cette vie. Et nous visons ça. Nous visons très haut parce que Dieu nous a donné ses promesses, ses commandements, son instruction. Ce serait pas de nous d'imaginer de rentrer en gloire avec Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a offert ça par sa grâce. Donc, 1 Corinthiens 15, lisons le verset 50 ici. « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Ce mot « héritage » ou l'idée d'hériter est souligné à plusieurs reprises ici. Notre héritage est aux cieux. Ce n'est pas ici, si bas. Verset 51. Voici, je vous dis, un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et donc, même il y a certaines personnes au retour de Christ qui vont rester vivants et qui seront changés sans jamais mourir. Donc, même Dieu est capable de faire ça, d'accomplir ça au retour de Jésus-Christ. Mais pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui continuent ce cheminement, nous avons un héritage qui dépasse tout ce qui est physique ici. Considérons 1 Jean, chapitre 3. nous tenons à l'esprit, nous gardons à l'esprit cette idée pour, dans les moments difficiles, dans les temps de découragement, nous visons plus loin que cette vie. Les choses que cette vie peuvent nous faire, peuvent nous délivrer, ce n'est pas la fin. Des fois, on se sent un petit peu découragé parce que tout ce que nous observons autour de nous va pas bien. Mais nous visons plus haut, n'est-ce pas? 1 Jean 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. » parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc, nous avons encore un encouragement ici, que nous avons cette possibilité maintenant d'être considérés, avec tout ce que nous avons étudié aujourd'hui, la possibilité d'être considérés comme enfants, en préparation pour cet héritage, et la gloire que nous allons hériter n'a pas de comparaison ici-bas. On ne peut pas le voir, on ne peut pas le comprendre, ça n'a pas encore été manifesté à nous de sa propre expérience. Bien sûr, Jésus a démontré sa gloire à certains de ses apôtres, de ses disciples, excusez, mais ce n'est pas la même chose que hériter cette gloire, que de posséder cette gloire, que de l'obtenir et de l'utiliser, de sentir la gloire qu'il va partager avec nous. Donc, c'est quand même un verset très encourageant. Mais cela nous montre aussi que, à la fois que nous sommes considérés enfants de Dieu, nous ne sommes pas totalement changés. Nous ne sommes pas arrivés au but. C'est intéressant parce que David a aperçu cette vérité aussi. Psaume 17, en passant par le psaume 17, nous avons la possibilité de savoir que Dieu a inspiré David à avoir une certaine compréhension de l'avenir, de ce que nous attendons aussi. Le psaume 17, très inspirant. Le psaume 17, David avait une compréhension de ce qui nous attend aussi. Psaume 17, commençons avec le verset 14, encore, « Délivre-moi ». Donc, il fait face aux difficultés de la vie. Il est poursuivi, il est pourchassé par ses ennemis. « Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie. Et tu remplis leur ventre de tes biens, leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, verset 15, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. C'est très joli, n'est-ce pas? David avait aperçu un peu ce que Paul est en train de nous décrire, un peu ce que l'apôtre Jean est en train de nous décrire, parce que nous le verrons tel qu'il est. David l'avait déjà compris. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Il savait que c'était impossible dans cette vie de voir l'image, de voir Dieu dans cette façon. L'incorruptible ne peut pas contempler cette gloire. Mais il imaginait dès la résurrection, je me rassasierai de ton image. Donc, intéressant. Je verrai ta face dans la justice. Donc, il parlait, David, il écrivait ici d'un héritage physique pour ses ennemis. Et bien sûr, même si les ennemis vont gagner aujourd'hui, ils vont avoir l'héritage physique. Mais ça aura fin, n'est-ce pas? Cet héritage physique. Même si nos ennemis aujourd'hui gagne sur nous, même si nous sommes perdants, si vous voulez, dans la façon de cette société, hein, ce n'est que temporaire, n'est-ce pas? Ce n'est que temporaire vis-à-vis du long terme qui compte le plus, c'est sur le plan éternel. Et c'est ça qui est encourageant, c'est que des fois nous sommes perdus, nous sommes bloqués dans ce que nous voyons avec nos yeux, dans le présent, Et il y a beaucoup de gens qui disent « Vivons dans le présent, vivons dans le présent ». Il y a des livres, des tomes écrits sur « Vivons dans le présent maintenant ». Mais frères et sœurs, je voudrais vous encourager, oui, faites de votre mieux dans le présent, mais vivons pour l'avenir. Vivons pour cet héritage, vivons pour ce qui est à venir, les choses que nous n'avons pas encore aperçues parce qu'ils ne sont pas encore manifestés. Donc, nous avons plusieurs exemples ici de la vie que Dieu prépare pour nous. Mais maintenant, nous allons nous orienter un petit peu vers l'avenir. 2 Pierre 3, 2 Pierre chapitre 3, on est déjà allé une fois, mais on va aller voir un autre verset maintenant. Ceci nous oriente pour aujourd'hui. C'est quand même un verset que nous connaissons. Mais si nous allons arriver à obtenir ce but, nous avons besoin d'agir maintenant. Ce n'est pas simplement attendre la résurrection, ce n'est pas attendre de mettre notre vie en stand-by. Donc, maintenant, 2 Pierre, chapitre 3, et le verset, excusez-moi, verset 18. Nous avons besoin de croître spirituellement. Spirituellement, pardon. 2 Pierre 3, 18. « Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. » Donc, même si nous sommes glorifiés à son retour, la gloire appartient vraiment à Dieu pour toujours. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes au même niveau de l'autorité de Dieu. Tout dépend de Dieu, mais nous pouvons obtenir cet héritage si nous croissons, si nous continuons à croître. Maintenant, Apocalypse chapitre 1, encore un petit peu plus vers l'avenir, en regardant en avant. Très intéressant que même en Apocalypse, dernier livre de la Bible, nous avons beaucoup de prophéties, beaucoup de choses qui nous informent sur notre avenir, mais dans le même contexte, nous avons de l'encouragement à continuer le bon combat aujourd'hui. Apocalypse 1 et le verset 6, Apocalypse 1, à partir du verset 6, on peut même commencer au verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, nous avons une opportunité non seulement de vivre éternellement, mais de régner avec Christ comme dans un royaume des sacrificateurs, quelque chose de très particulier. Ce n'est pas comme les royaumes de ce monde, c'est un royaume qui dépend de Dieu, qui obéit à Dieu, qui est géré, gouverné par Dieu. Et donc, nous avons l'opportunité d'y participer. Très intéressant que Jean soit inspiré à dire de fait de nous un royaume. Un royaume aussi, dans la Bible, dans le temps, dans le contexte de la Bible, indique non pas un royaume, mais dans le sens d'un endroit, mais un royaume dans le sens aussi d'un héritage, d'un lignage, d'une famille aussi, de sacrificateurs pour Dieu. Et puis, un peu plus loin, nous allons relier notre cheminement aujourd'hui avec cet avenir. Donc, Apocalypse 3 et le verset 5. Apocalypse 3 et le verset 5. « Celui qui vaincra, Voilà le mot-clé. Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Donc, c'est une promesse. C'est une promesse de Jésus-Christ. Mais qui nous oriente aujourd'hui? Comment allons-nous vaincre? Nous allons vaincre par tout ce que nous venons d'étudier aujourd'hui, par le don du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu en nous et par nos efforts à croître dans la grâce et la connaissance de Jésus-Christ. Donc, nous avons à la fois un avenir à considérer quand nous nous demandons notre but, notre objectif, notre raison d'être, mais nous avons aussi pas seulement le but long terme, mais les étapes à suivre pour y arriver, pour arriver à héritier. Donc, nous avons un but, nous avons un rôle, nous avons des responsabilités et nous avons aussi le don de l'Église. Nous avons nos frères, nos sœurs dans l'Église. L'Église est un lieu pour nous permettre de croître et de s'encourager et de s'identifier et de ne pas se trouver seul. Donc, l'Église est un don, c'est un cadeau, c'est un lieu de on accomplit la volonté de Dieu, on prêche l'Évangile, bien sûr, et on déclare la vérité de Dieu, mais en même temps, l'Église est là pour les membres. L'Église est là pour nous donner un lieu de pouvoir croître et de réussir notre objectif ultime. Tout ensemble. Au lieu d'être des individus éparpillés dans le monde entier, tout seuls, nous sommes bénis, frères et sœurs, d'avoir d'autres frères et sœurs autour de nous qui croient la même chose, qui observent les commandements, qui visent les mêmes objectifs, les mêmes buts. Donc, soyons quand même rassurés par cette possibilité de se retrouver ensemble. Apocalypse 21, tout à la fin de la Bible, nous avons un encouragement ici. Apocalypse 21, et nous allons terminer aujourd'hui à ce verset. Fixons ce but en tête, mais n'oublions pas toutes les étapes intermédiaires qui font partie de notre cheminement vers ce but ultime. Apocalypse 21, verset 7. « Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Donc, c'est notre opportunité quand nous entamons ces fêtes de l'Éternel, quand nous poursuivons chaque étape pour méditer le plan de salut. Rappelons-nous que nous ne sommes pas simplement des êtres physiques, mais nous sommes les enfants de Dieu en préparation pour la gloire.